Bonjour, Monsieur Kai. Merci d'avoir accepté d'être interviewé pour ce projet. Pourriez-vous vous présenter, votre nom, votre occupation et depuis quand vous êtes en Jassan?
Okay. Je m'appelle M. Amadou Diagne Kai. Je suis en Jassan depuis 2005, octobre 2005, et je suis professeur d'anglais.
Merci. Et à part des fonctions comme professeur d'anglais, est-ce que vous avez autre responsabilité au niveau de l'école ici, au niveau du CM?
Oui, au niveau du CM, je suis le premier adjoint du principal. Si le principal n'est pas là, je suis chargé d'assurer l'intérim. Ensuite, je suis le gestionnaire de l'école ici, dans le conseil de gestion de l'établissement. Et en même temps, je suis chargé du partenariat entre Ndiassan et l'association des racines et des hommes basée en France, à Vichy.
Merci. Et qu'est-ce que vous faites à l'égard de la gestion? Qu'est-ce que ça veut dire?
Pour la gestion, vous savez que maintenant, au Sénégal, on avait institué le conseil de gestion des établissements pour rendre beaucoup plus transparent la gestion au niveau des collèges et des lycées. Maintenant, le principal, c'est lui en tant que chef d'établissement qui est chargé de tout. Maintenant, on crée des organes pour au moins rendre les choses beaucoup plus visibles, que chacun puisse savoir que l'argent qui rentre à l'école est dépensé de façon là où il doit être. L'argent est dépensé là où il doit être dépensé, mais aussi au vu de tout le monde. C'est pourquoi au niveau de ce conseil-là, il y a le gestionnaire, c'est moi qui s'agit de l'argent à chaque fois, de dire si l'argent rentre, voilà ce qui est rentré. Si ça sort aussi, de notifier cela, de garder les reçus et tout ça, pour pouvoir maintenant après faire un bilan financier et contrôler, voir que voilà ce qu'on avait, maintenant ce qui reste. Et ça aussi, dans l'organe, il y a les élèves qui sont représentés, il y a les parents d'élèves qui sont représentés, le principal, les professeurs aussi choisissent un représentant, et puis les surveillants aussi ont un représentant.
Et les élèves que vous avez ici, qui viennent au collège, est-ce qu'ils sont tous de Ndiassan ou est-ce qu'ils viennent de villages d'alentour aussi?
Les élèves viennent, il y a une grande partie de ces élèves-là qui viennent des villages environnants. Mais la plupart viennent de Ndiassan. Autant au début, il y avait beaucoup qui venaient des villages environnants. Mais maintenant, on a créé des collèges de proximité, qui fait que certains maintenant ont des collèges dans leur localité. Mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas encore de collège dans leur... Et Ndiassan est beaucoup plus proche. Ce qui fait que maintenant, ils viennent ici à deux... Il y en a qui viennent à 2 ou 3 kilomètres pour venir faire le cours et puis rentrer.
D'accord. Et quel est l'effectif actuellement, à peu près, les garçons, filles?
L'effectif, à peu près, je n'ai pas exactement les chiffres, mais c'est que l'effectif total avoisine 460 élèves, je pense bien. Pas encore 500, on ne fait pas encore 500, peut-être l'année prochaine. Garçons et filles aussi, je n'ai pas encore les chiffres, ça c'est peut-être le principal qui a ça avec lui. Les chiffres, parce que souvent il y en a qui partent, des fois on peut avoir un chiffre au début de l'année, après il y en a qui vont être transférés, d'autres souvent abandonnent, qui fait qu'à chaque fois on a besoin d'actualiser pour avoir le nombre de filles, le nombre de garçons.
Oui. Et est-ce que l'effectif a augmenté depuis que vous êtes ici?
Oui, vous imaginez qu'au début, en 2003, je n'étais pas là, parce que l'école a ouvert en 2003. Moi, je suis venu en 2005, 2 ans après. Mais moi, j'ai trouvé ici, il y avait 68 ou 69 élèves quand je suis arrivé. Et on m'avait dit qu'au début, au tout début, il y avait 9 élèves seulement en classe de 6e. Oui. Maintenant, comme ici, les collèges, ça se crée maintenant comme ça. On crée par progression, on a une 6e cette année. L'année prochaine, ils vont faire la 5e, d'autres vont venir en 6e. Et ils vont passer maintenant jusqu'à avoir le cycle complet. Ce qui fait que moi, quand je venais ici, il y avait une 6e, 5e et 4e. En tout, ça faisait presque 68 ou 69 élèves en tout. Alors que dans certaines écoles, dans une seule classe, on pouvait retrouver 80 élèves.
Oui.
Mais maintenant, on fait presque, on avoisine les 500 élèves. Vous voyez que ça a progressé. Depuis 2003 jusque-là.
D'accord. Et est-ce que vous avez observé une évolution à l'école en tant que professeur maintenant en général? Est-ce qu'il y avait eu du changement? S'il y en a eu, de quelle sorte?
C'est-à-dire au début aussi, même pour créer le collège, comme je n'étais pas là, il y a peut-être j'ai appris par ceux qui étaient déjà là. Donc au début, les gens n'en voulaient pas déjà. Parce que peut-être c'est un village religieux. Au Sénégal, dans la plupart des villages religieux, où les gens sont un peu réticents par rapport à l'école, surtout l'école française, l'école à l'occidentale. Et finalement, il y a beaucoup qui ne veulent pas faire entrer leurs élèves à l'école, surtout dans les villages, dans les pôles religieux, comme Touba, comme Ndiassane, peut-être pas Tiaouane, parce que Tiaouane, c'est un cas particulier, c'est pas strictement religieux. Ça, c'était des villages créés par le fondateur qui a maintenant les talibis se sont regroupés, ce qui fait que c'est lui le chef guide spirituel et en même temps presque temporel. Alors peut-être à Tiaouane, bon, c'était un village des serrés. Quand Mam El Hadj Malik est venu, bon, ils lui ont donné une terre pour qu'il puisse s'installer. Donc il ne pouvait pas être plus royaliste que le roi. Là, ils sont venus dans un endroit où il n'y avait personne. Lui, il était là pour pouvoir bénéficier de la quiétude et ça, et maintenant adorer Dieu. Et ensuite, les talibés sont venus, sont installés, ils ont créé le village. Ce qui fait que maintenant, ce chef-là, il est le chef de la localité. Donc, souvent, tout va être comme ça, Ndiassane est un peu comme ça. Ce qui fait que maintenant, dans ces pôles-là, les gens sont un peu réticents par rapport à l'école, parce que pour eux, c'est un facteur de perdition, ça, c'est un facteur de contre-valeur. Donc, on va enseigner à nos enfants d'autres choses qui ne sont pas leur valeur, leur culture, etc. Ce qui fait que maintenant, ici, le problème aussi s'est posé. Quand il a fallu créer le collège, il y en a qui sont dit, beaucoup ont dit non, non. Donc, c'est un village religieux, Ndiassane, on l'a connu pour la religion et tout. Donc, il n'est pas question qu'on y installe une école française. Mais puisque à l'époque, il y avait un directeur d'école, c'est M. Kunda, lui était le directeur de l'école primaire. Il s'est battu pour qu'il puisse avoir une école primaire d'abord. Ensuite, il a été directeur parce que lui, au moins, il a fait l'école coranique, ici, il a fait l'école française jusqu'à sortir d'être instituteur. Maintenant, finalement, comme il fait partie de la famille, son père même a été calife. Donc, c'est un peu battu pour qu'on a créé l'école élémentaire. Mais ensuite, quand on a voulu avoir un CM, parce que maintenant les élèves étaient à l'école élémentaire, une fois qu'ils ont l'entrée en 6e, il fallait maintenant aller en classe de 6e, il n'y avait pas de collège, donc il fallait soit aller à Thiès, à Tiaouane, donc sortir du village. Et c'était difficile. Maintenant, il s'est battu pour avoir un collège pour que aussi les enfants puissent rester toujours en Ndiassane et continuer leur étude. Donc, quand il a demandé ça, maintenant les gens n'en ont pas voulu. Mais lui aussi s'est battu pour. Finalement, ils ont dit, même si on le fait, ce n'est pas ici, parce que pour même avoir le site là pour l'installer, ça a posé un problème. Finalement, le site a été donné par la communauté rurale, parce que ça fait partie de la communauté rurale de Sheriff Lo. Ils ont dit, ils vont donner ça. Puisque Ndiassane, on refuse de donner la terre, mais on va donner ici, le salaire appartient, ils vont donner ici pour qu'on puisse construire le collège. Pourquoi quand on a construit, il y avait 9 élèves, ils n'ont pas voulu amener leurs enfants. Mais 9 élèves, et puis jusque-là, plus de 10 ans après, on voit qu'il y a 500 et quelques. Ça veut dire que peut-être ils ont été convaincus que peut-être l'école à l'Occident ou bien à la française, ce n'est pas une école pour créer des contre-valeurs, mais c'est aussi une école pour construire un homme. C'est-à-dire un homme qui puisse vivre dans son environnement et qui puisse vivre ici comme ailleurs. Donc, il a fallu tenir ce discours-là pour que certains commencent à comprendre. Ils ont vu que leurs fils viennent, ils sont des Kunda, qui apprennent à l'école, et pourtant ils apprennent l'école coranique, ça ne les empêche pas de prier, ça ne les empêche pas de jeûner, de faire ce qu'ils doivent faire par rapport à la religion. Et puis maintenant, de pouvoir aussi trouver quelque chose qui peut leur permettre de sortir de la vie, parce que nous vivons sur terre, pas dans l'au-delà. Peut-être la religion, c'est pour l'au-delà, le paradis n'est pas terrestre. Bon, là, je me dis, donc, puisque ce n'est pas terrestre, on ne peut pas créer un paradis sur terre, moi, je n'y crois pas. Donc, peut-être s'il y a un paradis, il n'est pas là, il est là-bas, il est là, en haut. Ici, on est des hommes, Dieu nous a créés aussi pour vivre en tant qu'hommes. Et maintenant, peut-être à l'épreuve de ce que nous faisons et tout, peut-être après, on nous jugera, et maintenant, chacun saura qu'est-ce qui va en s'en suivre. Mais restons hommes, restons humains sur terre, parce qu'il dit que j'ai créé la terre pour vous, multipliez-vous, remplissez la terre, et habitez dans cette terre-là, et maintenant, vous êtes doté d'intelligence. Utilisez votre intelligence pour transformer votre monde. Ce n'est pas lui qui va venir transformer ce monde-là pour nous, mais donc, je vous ai doté d'intelligence, qui est vraiment un moteur extraordinaire, qui vous permettra, si vous l'utilisez à bon escient, de transformer votre environnement et d'y vivre convenablement. Peut-être c'est ce que l'Occident a compris. Il ne faut pas aussi rechigner à le dire. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas honte de dire peut-être, oui, ils l'ont bien compris, parce qu'ils ont transformé le monde. Pas plus qu'hier, j'ai discuté avec un ami et je lui disais que, entre guillemets, Touab Dal Amnadjeri. C'est en Wolof pour dire que le Touab, il est utile. C'est-à-dire, s'il n'était pas là, quel monde nous allons vivre? On aurait toujours des bougies. On aurait dû vivre peut-être pour avoir de l'eau potable, ça va être difficile et tout ça, et beaucoup d'autres choses qu'on peut donner. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et maintenant aussi suivre les pas de César, dire que voilà, ils nous ont montré le chemin, mais on peut être ce que nous sommes, c'est-à-dire musulmans, et maintenant participer à ce que le président Senghor disait au rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on reçoit, on doit toujours penser à donner aussi. Maintenant, on nous donne toujours, on aime tout, on traite tout, nous on est là, à chaque fois on dit non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, là je dis encore une fois que l'école aussi, ici à Ndiassane, pour moi ça c'est un plus, ça va être un moins par rapport à leur vécu. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont compris, c'est la famille d'abord qui refusait, les Kunta, parce que le village, la plupart c'est les Kunta. Mais on voit que maintenant dans nos classes, presque la plupart des élèves, c'est des Kunta. Anna, un jour, il m'a dit dans le parrainage là, bon, il y a beaucoup d'élèves sur la liste, là, le nom c'est des Kunta, 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 puisqu'elle ne comprenait pas la sociologie. Là, un jour, on a discuté chez elle là-bas, il m'a dit, mais comment se fait-il que vous, c'est vous qui choisissez ces élèves-là, sur la base de critères bien définis, mais à chaque fois, on voit que c'est des Kunta qu'on choisit. Est-ce que c'est, y a pas de favoritisme de dire non, non, c'est parce qu'au Sénégal, les villages se construisent comme ça. Il y a une base sociologique qui fait que souvent il y a quelqu'un qui vient avec sa femme ou un peu ses enfants. Maintenant, il est là tout seul. Maintenant, d'autres vont venir, ses parents, finalement. Même des fois, on lui donne le nom de famille. On parle de Ndiobène, ça veut dire les Diop. Kanen, ça veut dire les Kan. Donc, ça veut dire que finalement, on crée comme ça. Ça veut dire que quand vous venez dans ce village-là, la plupart des gens que vous allez rencontrer vont porter ce nom-là. Donc ça peut dire qu'il y a un choix arbitraire, mais c'est la sociologie du village. Il y a beaucoup de Kunta et quand on va choisir, forcément, il y aura beaucoup de Kunta ici. On devrait choisir un président de la République ici pour la localité ou bien des ministres, un gouvernement. Vous allez voir que dans ce gouvernement, beaucoup seraient des Kunta. Et ce n'est pas parce que c'est arbitraire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la démocratie. Il y a une démocratie, mais on a choisi aussi d'après aussi une certaine réalité sociologique. On ne peut pas faire fi de cette réalité-là. Maintenant, pour dire que si ces Kunta-là maintenant sont nombreux, alors qu'au début c'était eux qui n'en voulaient pas, qui craignaient un peu, bon, maintenant ils sont un peu rassurés pour dire ah bon, là, il y en a qui sont maintenant passés là, maintenant ils sont à l'université. Il y en a d'autres des fois qui m'appellent pour me dire qu'ils préparent leur master, d'autres qui me disent que des fois ils font la pharmacie, ils font la troisième année, deuxième année, ils sont passés par là. Maintenant, il y en a qui ont commencé même à enseigner. Donc, ils ont commencé à sentir un peu l'utilité pour dire qu'on ne fabriquait pas des hommes pour pervertir qui que ce soit, mais on voulait en faire des citoyens et de bons citoyens sénégalais, des gens qui peuvent apporter quelque chose à leur pays, quelque chose à leur communauté, une plus-value aussi à leur être, c'est-à-dire à eux-mêmes. Et maintenant, de plus en plus, chaque année, on voit que le nombre d'élèves augmente. Chaque année, l'année passée, on était à 400 et quelques. Cette année, on avoisine les 500 et on pense que l'année prochaine, ça va aussi augmenter. Les gens même envisagent d'en faire un lycée parce que si les élèves ont le BFM, ils sont obligés d'aller encore soit à Tiaouane, de se déplacer. On veut qu'à partir de l'école maternelle, qu'un enfant puisse être à Ndiassane, faire ses cours à l'école maternelle, l'école primaire, l'école élémentaire, le lycée et peut-être pour sortir aller à Thiès, à Tiaouane, à Dakar, à Saint-Louis pour faire l'université.
Oui, bien, merci, c'est bien. Et puisque vous avez déjà entamé le sujet du parrainage à travers l'Association des Racines et des Sommes du Sénégal, OCM, ici, pourriez-vous décrire le parrainage et l'appui qu'apporte l'association selon vos observations et l'implication, vous-même vous êtes impliqué?
Le parrainage aussi, ça m'a trouvé sur place, c'est-à-dire que je suis venu ici en 2005 et en 2006, ils sont venus. C'est-à-dire au début, le parrainage, c'était entre l'école primaire et l'association, parce qu'ils ont contacté M. Kunta, là, qui ensuite était même devenu ici surveillant à l'école, il est décédé. Donc M. Kunta était directeur là-bas, donc bon, puisque l'école venait d'année, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il y a le maire de Ngaïkhor, l'ancien maire de Ngaïkhor, puisque c'est un maire, il a des relations, il a mis un rapport pour pouvoir les aider. Ce sont allés. Puisque maintenant la situation vient, il a commencé à aider les élèves, surtout qu'ils n'habitaient pas sur place, sur la cantine, pour l'achat des fournitures, etc. Et finalement, quand on a créé le collège, M. Kunta aussi est devenu par la suite le surveillant ici, il n'est plus directeur, il est surveillant dans l'établissement, c'était le premier surveillant ici. Finalement, il a proposé au principal qui était venu, M. Sao Kalibissau, qui est à Thiès maintenant, pour lui dire maintenant on veut que faire parler à l'association pour qu'il puisse venir à l'école et faire la même chose que ce qu'il a fait à l'école élémentaire. qui puissent nous aider. Parce qu'à l'époque, on avait seulement les classes, là, 4, 5 salles de classe, toilettes, il n'y a plus rien. L'époque, c'était ça au début. Il n'y avait même pas de mur. Il y avait 5 salles comme ça, les toilettes, et c'est fini, il n'y avait rien. Donc, l'école avait besoin d'énormément de choses. Il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait même pas d'électricité, table banc, il n'y avait pas assez et tout ça. Il dit maintenant, on peut les contacter. Comme ça, ils peuvent nous aider sur des choses, puisque ici, c'est l'État. On écrit chaque fois pour dire ce qui manque et tout, mais on vous promet, on ne vous donne jamais. On ne peut pas aussi croiser les bras. Donc, il faut voir des partenariats, etc. Oui. Maintenant, finalement, on a contacté l'association pour leur demander de venir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'école et tout. Ils sont venus. Ils ont regardé l'école, ils étaient étonnés de voir que comment on peut créer une école. Il n'y a pas d'eau, il y a même quelqu'un qui m'a dit en France, on ne peut pas imaginer la première chose à faire, c'est quand des gens se groupent quelque part, il faut de l'eau. Mais on ne peut pas regrouper centaines d'élèves, 200 élèves dans un endroit, il n'y a même pas d'eau. Voilà. Donc comment on va faire utiliser les toilettes, comment on va... Donc ils vont penser sur ça pour voir comment ils vont faire pour nous amener l'eau. Ensuite, pour un premier temps, c'était ça, l'eau. Ensuite, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Mais bon, comme ils ont été bien accueillis, ils ont dit que bon, parce qu'ils étaient venus une première fois ici, c'était en 2003, au tout début de l'école, mais ils ont trouvé un principal qui était là, qui était Ibad Rahman. Ibad Rahman, c'est un peu ce qu'on appelle les salafistes, un peu, disons, un peu fondamentalistes comme ça. Lui était Ibad Rahman, avec une barbe et tout ça, il ne savait pas les filles, etc. Quand ils sont venus ici, puisque dans la délégation, il y avait des. Et si il y a des femmes, et finalement, il n'a pas voulu donner la main aux dames là. Anna en faisait partie. Ce qui fait qu'ils ont été frustrés. Tendre la main, tu ne veux pas prendre. Quand maintenant ils sont retournés, ils disent il n'est pas question d'aider l'école là, parce qu'ils ne veulent même pas nous donner leur main. Bon, après, ils ont fait blackout sur l'école. C'est en 2006 maintenant qu'on a dit maintenant il y a un nouveau principal qui est venu, il n'est pas comme ça, il faut revenir pour voir. Ils ont accepté. Ils ont été bien accueillis et tout. Après, finalement, ils ont commencé à nous aider. Maintenant, au début, ils ont amené l'électricité, l'eau, pour au moins ce que les élèves puissent avoir. Parce qu'il fallait aller jusqu'au dans le village avec un âne sur une charrette pour chercher de l'eau, etc. Pour avoir l'eau à l'école. Et maintenant, ils ont dit que puisque ici, la plupart des élèves venaient à 3 km, il y en a qui étaient même à 5 km, ils venaient ensuite rentrer à midi. Des fois pour revenir à 15h, rentrer. Donc c'était un peu difficile. Finalement, ils ont dit que même certains, quand ils descendaient à 12h, ils ne rentraient pas. Donc ils restaient isolés à l'école, sous l'arbre, etc. Des fois, ils achetaient des cacahuètes pour manger en attendant 16h pour faire cours jusqu'à 18h. Des fois, à 18h, là-bas aussi, soit ils marchaient, ou bien même s'ils prennent une voiture, ils peuvent rester jusqu'à des fois 20h pour avoir une voiture. Des fois, à 16h, à 22h moins. Qui fait que c'était dangereux. Ensuite, ils n'avaient pas le temps d'apprendre leurs leçons, bon, parce qu'ils étaient fatigués. Oui. Finalement, on a dit que bon, ça ne peut pas continuer, il faut trouver quelqu'un qui puisse nous aider à avoir au moins une cantine. Comme ça, là, on pourra sortir entre midi et midi 30, les élèves vont manger, etc. Un peu, on continue jusqu'à 16h, à 15h, et là, maintenant, on rentre une bonne fois en plus. Ça veut dire qu'ils vont venir peut-être une fois, rentrer aussi une fois, et ils auront aussi le temps de se reposer, de manger, d'apprendre une leçon. Finalement, l'association aussi nous a dit, va nous aider dans ce sens-là, en créant une cantine. Et maintenant, comme la cantine, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour tout le monde, ils vont créer une cantine, mais là, ce sera pour les élèves, au moins, il y aura une priorité des élèves qu'on va choisir pour faire partie de la cantine. C'était les élèves-là qui travaillent bien, et aussi qui appartenaient à des familles un peu déshéritées. Il fallait choisir ces gens-là. Des élèves qui travaillaient et qui appartenaient à des familles, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et maintenant, il y en a qui avaient des familles, au moins on peut leur donner un morceau de pain quand ils viennent, ils peuvent manger ça à midi. Mais il y en a qui n'avaient rien. Et des fois, il y en a qui ne pouvaient même pas s'inscrire. Ils ont dit, pour ces élèves-là aussi, ils vont payer leur inscription. En plus, quelqu'un qui ne peut pas s'inscrire, des fois aussi, il y aura des problèmes pour acheter des fournitures. Maintenant, ils ont dit, donc, ils vont non seulement les inscrire en début d'école, ensuite, ils vont leur acheter des fournitures et maintenant donner de l'argent pour la cantine. Comme ça, ces élèves-là seront pris en charge presque totalement par l'association. Et depuis 2006, ils prennent ces élèves-là. Généralement, le nombre augmente à chaque fois. Ils prennent parce qu'il y a des gens, c'est une association de parrainage en même temps. Ils se font parrainer par des Français, des Françaises. Qui donnent l'argent pour les fournitures, la cantine et tout ça. Maintenant, eux, ils se chargent de la monnaie et de donner à chacun ce qui lui appartient, pour que au moins ces élèves-là puissent au moins être dans des conditions beaucoup plus favorables. Et maintenant, on a vu qu'après cela, les élèves ont commencé, les résultats aussi, on a vu que les résultats ont, il y a eu des répercussions dans les résultats scolaires. Les élèves ont travaillé mieux. Et maintenant, ça a créé aussi de l'émulation. Certains qui voulaient aussi faire partie de la cantine, parce qu'après, ils ont dit que, bon, puisque pour les critères sociaux, c'était un peu difficile. Des fois, on a dû choisir ce qui était plus favorable. Mais des fois, quelqu'un venait te dire, bon, ça, c'est mon fils, c'est mon nom. Bon, comme en Afrique, ça me mettait un peu mal à l'aise. Bon, finalement, j'ai proposé, est-ce qu'on ne pouvait pas choisir ces élèves-là sur la base de leur, une base beaucoup plus objective, c'est-à-dire la base de performance. Là, sera beaucoup plus, je serai beaucoup plus à l'aise quand on dit les meilleurs seront parrainés, ils feront partie de la cantine, les meilleurs ils feront des compositions en classe, on aura des résultats. Sur la base des résultats, on pourra dire que voilà les élèves qui sont choisis. La personne ne pourra contester. Et maintenant, c'est ce qu'ils voudront en faire partie. On leur dira tout simplement que maintenant, travaillez bien, faites tout pour faire partie de ces élèves-là, on va vous choisir. Ça a créé des élèves, maintenant ça a dit que ça a créé un peu quelque chose comme une concurrence, etc. Chacun va en faire partie et ça nous a un peu aidé aussi à avoir d'assez bons résultats, des résultats plus ou moins bons par rapport à la moyenne nationale, souvent au BFM, ou bien à la moyenne au niveau du département. Souvent on se comporte bien au BFM. Ce qui fait que l'association, maintenant pour le volet, le parrainage, souvent aussi les parrains envoient de façon ponctuelle, ils envoient des fois de l'argent à leur. Des fois ils envoient quelque chose quand quelqu'un vient de France, des fois ils donnent des habits, des t-shirts, des objets, des fois des livres, etc. À leur, voilà. Il y en a même qui ont continué jusqu'à présent à parrainer leur filles jusqu'à l'université. Il y en a qui sont allés jusqu'à l'université, jusqu'à présent ils ont payé leurs frais d'inscription à l'université. Ils leur ont acheté même des fois, ils ont promis d'acheter des ordinateurs portables pour les aider, parce qu'il leur faut avoir ça. Donc, on dit que bon, vraiment, ils nous ont aidés sur beaucoup de choses. Ensuite, ils nous ont permis d'avoir une photocopieuse, parce que même pour avoir des bulletins de composition, on écrivait tout et tout ça, ça prenait du temps. Quand ils ont vu ça aussi, vous avez écrit une lettre argumentée au niveau de le conseil d'administration, ils l'ont lu et ils ont dit que d'abord, la photocopieuse est indispensable. Parce qu'il fallait avoir une photocopieuse, plus même, il fallait à la tièce. Souvent, j'amenais des fois à Thiès, photocopier là-bas, ensuite amener ici. Des fois, c'était nombreux et c'était cher aussi. Finalement, ils nous ont acheté une photocopieuse neuve à 680 quelques mille francs. Ils nous ont donné aussi une imprimante et un ordinateur au début. Et là, on a commencé même à. Maintenant, on travaille beaucoup plus facilement. Même pour remplir les bulletins, on le fait en quelques minutes. Alors que des fois, on prenait une semaine pour remplir les bulletins de nos élèves là, parce qu'on les prenait un à un, on écrivait. On signe, maintenant avec la machine, on met les notes, la machine fait tout. Ce qui fait que maintenant, en une journée, moi je viens ici, en une journée, je remplis tout, j'ai 4 ou 5 classes, je remplis toutes les 5 classes, j'en ai terminé. Et comme ça, les délais sont écourtés, on tient nos conseils de classe à temps. Et vraiment, ils nous ont aidés, ils ont même ensuite donné notre ordinateur. Ensuite, il y a une association américaine qui veut nous offrir encore d'autres ordinateurs.
Ah, d'accord.
C'est les ordinateurs, les 5, les tables de bureau là, qui nous ont donné ça. Et ça, je pense que l'association, c'est un peu l'association du révérend Sullivan.
Deux
Révérend Sullivan.
Ah, d'accord. D'accord.
Je pense que l'association s'est appelée comme ça. Révérend Sullivan, je pense que c'est ça le nom. Parce qu'ils ont passé il y a 4 ans ou 5 ans.
Ouais.
Maintenant, ils ont fait les tables de bureau, 5 ordinateurs, 5 tables de bureau, et aussi une imprimante. Donc, même plus l'autre que nous avions, ça nous a un peu aidé aussi à commencer. Même la cantine, là aussi, ils ont aidé à construire la salle. Cette salle-là pour pouvoir préparer, etc. Donc, c'est ma coupe. Ils nous ont beaucoup aidé sur presque l'école. Là, l'essentiel de ce qui est fait ici, c'est l'association. Même les livres, les romans que les élèves doivent lire. Souvent, ils nous ont donné l'argent là. On achetait les romans pour que les élèves puissent lire. Les manuels qu'on utilise, les manuels en anglais, en français. Donc, ils ont aidé beaucoup sur ça, l'achat de manuels, l'achat de livres, l'achat de romans, l'achat d'ordinateurs et tout ça. Vraiment, ils nous ont aidé sur ça.
Et dans la cantine, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et est-ce qu'il y a des femmes qui viennent préparer? Comment est-ce que ça fonctionne?
Il y a une dame, c'est la surveillante, c'est Madame Kunda, c'est la partie de la famille, son mari, je pense que son mari, son père est l'actuel calife. Donc elle est surveillante ici, donc c'est elle qui est chargée de la cantine. Donc finalement, dans la cantine, on dit comme ici, elle a une bonne chez elle, qui travaille, une femme de ménage chez elle, maintenant, on lui donne de l'argent, maintenant, elle vient ici pour préparer pour les élèves. Maintenant, comme on a dit qu'on ne va pas le tout préparer en grand nombre, si on veut préparer les plats africains, parce qu'ici, souvent, les gens
Oui,
mangent du riz au
certainement.
poisson, au mafé, etc., c'est un peu difficile à préparer pour un grand nombre. Finalement, on a opté pour les repas qu'on peut préparer très rapidement, puisqu'il y a du temps pour les élèves aller à l'école. Là, c'est pourquoi maintenant, on cuisine des sandwichs à base de corned bœuf ou bien des sardines, thon. Donc, souvent, on varie, soit aujourd'hui c'est corned bœuf, demain c'est thon, sardines. On a acheté un stock, et maintenant, à chaque fois, on mange des sandwichs avec. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide à préparer. Aussi, on mange rapidement et on peut regagner les places.
Oui. Et si j'ai bien compris, il y a une différence entre l'appui qu'on peut faire aux élèves et le parrainage. C'est-à-dire, il y a certains élèves qui ont un appui, par exemple pour l'inscription, et d'autres qui sont parrainés. Oui. Et quelle exactement est la différence du choix, etc.
Bon, c'est pas ceux qui sont parrainés, ce sont en même temps ceux qui sont. C'est-à-dire, ceux qui sont parrainés, ce sont ces élèves-là qui sont pris en charge pour leur inscription, pour la cantine, et ce sont ces élèves-là. Parce que c'est leur parrain qui cotise, qui donne ça. Donc, l'association prend l'argent, chaque parrain choisit, il faut choisir un élève en telle classe, un autre, on choisit, on leur propose des noms, les élèves écrivent des lettres. On le donne au parrain. Maintenant, souvent, chaque parrain donne sa cotisation pour l'inscription, la cantine et les fournitures. Donc, globalement, on fixe un montant et il donne ça pour sa fille ou bien son fille. Maintenant, la situation amène ça et on donne ça à l'élève. Maintenant, la partie qui concerne la cantine, on garde ça dans le compte de l'école au niveau du crédit mutuel. Comme ça, là aussi, on achètera les stocks de. Sardines, tout ça qu'on laisse maintenant. Souvent on laisse ça parce qu'il y a des dépenses journalières qu'on fait, c'est-à-dire les oignons, les ingrédients, les vinaigres, etc. On laisse ça presque mensuellement. Chaque fois aussi c'est fini, on achète encore. Donc c'est fait que maintenant l'argent pour la cantine, on garde ça là, pour l'achat des. Maintenant l'argent pour les inscriptions, on met ça aussi dans l'argent de l'école concernant aussi le budget de fonctionnement. Et maintenant pour les fournitures, on achète les fournitures. À l'époque, moi, ils venaient ici à Thiès. On allait ensemble, il y a une librairie. Moi, j'habite à Thiès. Il y a une librairie à Thiès. Maintenant, ils vont là-bas. On va faire la commande, on achète tout. Et ils viennent avec moi amener ça à l'école. Après, on va distribuer. Chaque élève va avoir son lot de fournitures. C'est comme ça qu'on faisait ça. Maintenant, après, c'est eux qui viennent. Je leur dis maintenant, vous pouvez acheter ça depuis son nom, ou bien, vous pouvez acheter ça, amener ça directement à l'école. Ça vaut mieux d'aller à Thiès, revenir. Mais finalement, maintenant, depuis presque 5 ans, ils achètent ça maintenant à Somme. Ils viennent directement ici. Maintenant, après, nous, on se sert maintenant de distribuer ça aux élèves parrainés.
Et puisque vous dites que l'appui est à la base ou en fonction de la performance d'un élève, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'élèves qui ont un appui durant la première année au collège?
Oui, ça veut dire que durant la première année, il n'y avait pas d'appui. On choisit à partir de la cinquième. Parce que je leur avais dit que moi, parce que c'est moi qui choisis ici. Des fois, bon, les élèves qui viennent de l'école primaire, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur performance. Donc, je ne pourrais pas choisir. Soit on choisit en cinquième, quatrième, troisième. Maintenant, j'ai dit, maintenant, si on choisit quelqu'un aussi en troisième, des fois, ce n'est même pas bon pour l'école. Parce qu'en troisième, il fait une année, s'il a le permis, il part. Finalement, je préfère quelqu'un qui, depuis la 6e, 5e, au moins il reste à l'école, l'école en tire des bénéfices. Que maintenant, quelqu'un le choisit en 3e, il obtient son permis, il s'en va à l'école, le parrain peut ne plus parrainer, etc. Donc finalement, ils ont dit que ça aussi c'est la meilleure idée maintenant de choisir à partir de la 6e, 5e. Maintenant, comme aussi la 6e, moi, ils viennent d'arriver, souvent je ne les connais pas. La plupart des élèves venaient de 5e, comme ça, ils font 5e, 6e. À ceux qui sont en 6e, soit on leur fait comprendre le projet, comment ça marche et tout, pour les inciter à travailler, pour au moins l'année prochaine pouvoir faire partie des élèves-là. Mais à partir de cette année-là, on avait quoi? Parce que souvent certains écrivent et vous disent, je veux un élève en classe de 6e. Mon parrain, il écrit une lettre, il dit qu'il faut me choisir un élève en classe de 6e. Donc, puisque nous aussi, nous ne pouvons pas, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui aident, donc on ne peut que respecter le choix. Finalement, là, on va être obligé de choisir des élèves en classe de 6e. Là, soit je viens pour poser des questions, des fois on est obligé de voir peut-être l'instituteur ou quelqu'un qui connaît pour dire est-ce que des fois on te dit que oui, c'était un bon élève. On choisit ça, donc là c'est aussi plus arbitraire parce qu'on connaît exactement pas l'élève. Des fois même ça nous arrive, moi j'ai eu à choisir certains élèves. Mais après, je me suis rendu compte que si c'était à refaire, je ne vais pas les choisir.
Ouais.
Parce que c'était au début, bon, je les ai vus, j'étais enthousiaste, ils participaient au cours, et comme ça. Et bon, finalement, quand il fallait choisir, j'ai demandé à mon mari, il se débrouille bien, je les ai choisis. Mais j'en ai vu que, après les compositions pour voir les notes, il y en a presque deux ou trois, j'ai choisi, mais ils n'ont même pas eu la moyenne, ils ont de 9,4, alors que les autres ont 13, 14, il y en a même qui ont eu des moyennes de 17. Alors que on a certains qui ont une moyenne de 18 en 6e, qu'on n'a pas du tout choisi. Il y a une élève qui c'est d'ailleurs la meilleure moyenne de tout l'établissement, il y a une moyenne de 18,51. Et on n'a pas du tout choisi.
Mm-hmm.
D'abord, lui, il est très bien dans toutes les matières. Dans toutes les matières, c'est un élève qui se comporte très bien. Ensuite, c'est un élève qui a aussi vu dans des conditions un peu défavorables. Mais finalement, on ne le connaissait pas, bon, il a fallu attendre la fin pour voir que pourtant c'est un moyen de 18,51, aucun élève ne l'a jamais eu depuis qu'on a créé l'école. Et il n'a pas du tout été, ça m'a fait un peu mal parce que je sais que du point de vue de sa moyenne, on devait le choisir. Et puis aussi, il vit des conditions un peu difficiles, donc il a tous les critères pour pouvoir être choisi.
Ouais.
Finalement, je l'ai appelé pour lui dire, bon, tu vas me donner ton nom et tout ça. Comme ça, l'année prochaine, quand on va venir, qu'on va demander de choisir, tu seras le premier à être choisi parce que tu es le premier de l'école aussi, c'est vraiment. Il faut dire que donc, ce soir-là, on nous a demandé de choisir en 6e, mais c'est un peu difficile en 6e parce qu'on ne connaît pas la performance réelle. Des fois, c'est quelqu'un qui te dit seulement oui, bon. Et maintenant, si c'est quelqu'un-là veut simplement te pousser à choisir son. Peut-être, des fois, c'est des amis, c'est des cousins, etc. Souvent, c'est la surveillante puisque c'est lui qui, elle, qui connaît le village. Moi, je n'habite pas dans le village. Souvent, je lui demande pour dire, mais tel élève, comment il me dit, oui. comme ça. Finalement, toi, tu choisis sur la base de ce qu'elle t'a dit. Mais des fois, après, tu vois que bon, ce n'était pas ça.
Mm-hmm.
Et on ne peut pas revenir en arrière parce que presque l'année a terminé.
Oui, oui.
On attend un peu l'année prochaine pour voir si le parrain, parce que des fois, il y a certains parrains, quand leur fille ne travaille pas bien, ils vont écrire pour dire, je veux un autre. Des fois, il y en a qui l'ont fait cette année-là. Ils vont choisir seulement un autre en classe de tel.
Ouais.
Là aussi, bon, si quelqu'un n'est pas satisfait pour le résultat, il dit ça, on est obligé de choisir quelqu'un d'autre. S'il continue avec lui, là aussi, c'est son choix.
D'accord. Oui, bon, Ismaël et Anna, quand on leur a parlé hier, quand on a causé avec eux hier, ils ont vraiment exprimé leur pleine satisfaction avec Njassan et comment ça marche ici. Mm-hmm. Ils ont dit vraiment, ils sont ravis, ils ont beaucoup loué ce que vous faites ici. Mm-hmm. Ils sont très très contents, il faut le dire. Mm-hmm. Bon, est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure?
Mon mot de la fin, c'est ce que je voulais dire, c'est d'abord vous remercier. Parce que peut-être ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas nous qui devrons le faire à votre place? C'est une question que je me pose. C'est-à-dire que ce que vous faites aussi, c'est-à-dire que vous êtes à des milliers de kilomètres. Le Sénégal, c'est loin. Et peut-être aux États-Unis, il y a des religions, comme ici, il y a des sectes. Donc on pourrait s'arrêter là-bas, il y a beaucoup de choses à voir. Mais si on vient jusqu'ici, peut-être c'est pour rendre notre pays visible, parce que Njassan, ça fait partie du Sénégal. Et peut-être vous qui quittez votre localité très loin, avec le temps et tout ça, les contraintes de temps aussi, le milieu, donc le changement climatique, tout ça, les intempéries, bon, on brave tout ça pour venir jusqu'au Sénégal, rien que pour faire émerger quelque chose que peut-être les gens ne connaissaient pas. C'est quelque chose qui est louable, d'autant plus que ceci nous appartient à nous. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est pour dire simplement que moi, la compréhension que j'ai pour le monde, c'est une compréhension qui est un peu comme ça, globale. C'est-à-dire que moi, on est des êtres humains, on est humain, soit on l'est ou bien on ne l'est pas. Et moi, je suppose qu'on l'est. Et comme on est des êtres humains, tout ce que l'humain peut faire pour son prochain, moi, je pense que c'est quelque chose de salutaire. Et moi, je ne suis pas... Mon père, il est Hadr, c'est-à-dire il fait partie de cette communauté-là. Et moi, je ne le suis pas. Et d'ailleurs, il a été le seul Hadr de la famille. C'est-à-dire que nous sommes dans une famille de 11... Il a eu 11 enfants et notre père, il est le seul qui a été Hadr.
Mm-hmm.
Tout le reste, la plus grande partie, c'est des Tidjanes. Moi, je suis Mourid. pour dire que, et pourtant, c'est les gens que j'aime le plus au monde. C'est pas cette différence-là qui fait que cette différence-là qui fait que mon frère est étudiant ou l'autre, et mon père est hard, moi je suis nourri, que je vais créer. Non, c'est les êtres que j'aime le plus au monde, c'est les êtres qui me sont les plus chers.
Mm-hmm.
Donc, pour dire que cette différence-là qui existe entre nous, mon père me disait simplement que ce que jamais il nous a demandé, maintenant venez, parce qu'il y a des gens qui disent je suis là, tous mes enfants doivent être là, parce que c'est moi qui dois manger, etc. Lui, à chaque fois, il nous laisse soit librement comme ça. Des fois, il te pose des questions, pourquoi tu fais ça, où tu fais ça. Tu l'expliques ici, il est convaincu, il te dit. Donc, c'est un bon chemin. Tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est d'être dans le chemin. Moi, ce que je veux, c'est que là où vous êtes, essayez de faire partie des meilleurs. Je ne veux pas être dans un endroit où je me sens seulement de dire oui, mais si je ne fais rien, je ne pratique rien, mais simplement de parler. Mais là où vous êtes, essayez de faire partie des meilleurs. Que ce soit Hadr, Tijan ou Mouy, tous ces voies-là mènent vers Dieu. Parce que les voies vers le Seigneur, ce n'est pas une seule voie. Maintenant, Dieu, il est là. Souvent, on nous dit qu'il est partout. Il est partout, donc ça veut dire qu'il voit tout, il connaît tout le monde. Moi, souvent, je dis c'est pas, bon, il n'est pas partout. C'est partout que Dieu, le mot Dieu et nous, entre Dieu et nous, c'est comme ça. C'est comme une boule qu'on met ici. Je regarde la boule, je vois tout ce qui se passe. S'il est partout, peut-être qu'il se déplace, bon, alors que lui ne se déplace pas. Donc, il a le monde comme ça, il nous voit. Et il aime son monde. Et nous, dans l'islam comme dans le christianisme, on nous dit que Dieu, il dit que parmi tout ce que j'ai créé, l'homme est ma créature que j'aime le plus. Maintenant, chez nous-mêmes, en islam, on nous dit que la famille d'Adam est ma famille préférée. Et quel intérêt Dieu a-t-il à nous préférer, à nous aimer? Nous n'avons rien fait pour lui. Bon, nous ne pouvons rien lui augmenter ou rien l'abaisser. Donc ça dit, s'il maintenant retourne lui, en tant que Dieu, il a de l'affection pour nous, de la compassion pour nous, pour moi c'est l'exemple qu'il nous donne pour nous dire que voilà ce que vous devez suivre, aimez-vous les uns et les autres. Et le christianisme ne dit pas autre chose. Et au Sénégal, on a la chance. Cette chance-là, ça veut dire que moi, si vous regardez mes arrière-parents, ils sont originaires de Saint-Louis. Et dans ma famille, mes arrière-parents, la plupart, c'était des chrétiens. Parce que le christianisme est entré en premier au Sénégal, parce que c'est aussi la première religion de plus de 600 ans avant l'islam. Donc, ils sont venus en premier, les missionnaires en Afrique, ils sont installés. Moi, mes parents, mes arrière-parents étaient des chrétiens de Saint-Louis. Dans la famille, maintenant, il y en a quelques qui sont restés jusqu'à présent des chrétiens. La grande majorité, ils sont des musulmans. Vous allez à Jawal, c'est la même chose, dans une même famille, le père, son frère, il est musulman, on construit une mosquée ensemble, c'est-à-dire qu'on doit construire une mosquée, tout le monde cotise, musulman comme chrétien, on construit la mosquée. On construit une église, tout le monde cotise, on le fait, et c'est fini. À Ziguinchor, c'est la même chose, les cimetières, c'est le même cimetière, vous entrez ici, on enterre les chrétiens, les musulmans, il n'y a pas de cloisonnement. Ce qui fait que donc, c'est un bel exemple qu'on ne retrouve nulle part dans le monde. C'est-à-dire qu'ici, la religion n'est pas un frein, ce n'est pas un obstacle pour nous. On a appris à vivre entre chrétiens et musulmans, etc. Moi, là où j'habite, la plupart de mes voisins, c'est des chrétiens. Et j'ai bien fait de choisir d'habiter vers eux. Souvent, je me dis que quand j'habite avec eux, j'ai constaté que je me sens bien. Ils ne me dérangent pas, ils me respectent. Et je leur rends ce respect-là. On n'est pas de la même religion. J'ai habité dans ces endroits, peut-être ceux qui habitaient avec moi, peut-être des musulmans, mais ils me dérangeaient plus. C'était eux qui versaient l'eau devant ma porte. Alors que je n'ai rien à dire, si tu dis quelque chose, ils me disent que oui, ils font le blanc. Bon, souvent, moi, je me dis que bon, quand tout ce qui est bon, on l'attribue au blanc. Chez nous, des fois, même quand tu te portes bien, tu s'habilles bien, tu fais le blanc. Ah ben, donc, il faut accepter aussi que le blanc est meilleur. Ou bien que ce n'est pas quelque chose qui appartient seulement au blanc, mais à l'être humain en tant qu'être. Moi, je dis donc, si on veut construire ce monde-là, il faut aller vers ça. Ça veut dire qu'oublier, on ne peut pas peut-être forcer les gens à Dieu à aimer ce monde tel qu'il est. Moi, je dis que si Dieu est puissant, et je pense qu'il l'est, si Dieu est omniprésent, et je pense qu'il l'est, si Dieu est omnipotent, comme on dit, et je pense qu'il l'est, il pourrait faire en sorte que tout le monde soit blanc. Il pourrait faire en sorte que tout le monde soit noir. Il pourrait faire en sorte que tout le monde soit riche. Il pourrait faire en sorte que tout le monde vive dans de bonnes conditions, ne tombe jamais malade. Mais il ne l'a pas fait. C'est parce que c'est ça qui lui plaît. Et je pense que cette diversité-là, c'est le charme du monde. Moi, je dis que si tout le monde était blanc dans ce monde-là, ce serait un monde qui n'est pas beau. Si tout le monde était noir, ce serait un monde qui n'est pas beau. C'est comme si tout le monde était riche. Maintenant, qui va devenir ouvrier pour travailler pour qui que ce soit? Si tout le monde est des riches, donc chacun, personne ne va s'occuper de personne. Ce qui fait qu'on va vivre dans, chacun va vivre dans son vase clos, personne ne s'occupe de personne. Et ça, c'est pas bon, c'est pas agréable. L'homme a besoin de vivre, nous avons besoin de vivre en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut une différence. Maintenant, nous devons essayer de vivre dans l'indifférence de nos différences. C'est-à-dire ne pas trop s'apesantir sur cette différence-là pour pouvoir créer un monde nouveau. C'est-à-dire que voilà, les religions, peut-être l'homme a besoin de croire. Nous avons un besoin de croire. Même si on ne croit en rien, on croit en quelque chose, c'est-à-dire on ne croit en rien. C'est-à-dire donc on a besoin de croire quelque part à quelque chose parce que c'est ça qui donne un sens à notre vécu, à notre monde. Mais ce que nous croyons comme être vrai, alors que les philosophes disent que la vérité, on ne connaît pas la vérité des fois même, est-ce que c'est unique, ni univoque? Ça peut être ce qui est vrai au Sénégal ne peut pas l'être aux États-Unis. Donc est-ce qu'il faut être là, condamner les gens parce qu'ils ont une telle couleur? Est-ce qu'il faut là, dire du mal des gens parce que bon, celui-là il est de telle ethnie ou bien celui-là il n'est pas riche? Donc moi je pense que donc au Sénégal on a dépassé toutes ces choses-là depuis longtemps. Et moi, je prie vivement à chaque jour pour dire que je veux que ça continue pour des générations et des générations. Et ce sont de l'étranger qui viennent au Sénégal, quand ils viennent ici, ils se sentent comme chez eux, parce que c'est ça notre culture, c'est ça notre être profond. C'est-à-dire l'autre n'est pas autre. L'autre, il est nous-mêmes. Peut-être qu'il habite ailleurs, parce que notre monde est un village, on dit c'est un village, tout le monde ne peut pas habiter dans la même chambre dominante. Il y en a qui vont habiter dans l'autre chambre dominante. Mais ça veut dire que l'autre, il n'est pas autre, il est nous-mêmes. Maintenant, si on regarde l'autre comme moi-même, des fois on ne fera pas du mal. Des fois on va le respecter parce que celui qui se respecte ne va pas manquer de respect aux autres. Donc respectons tous ceux qui viennent, les étrangers qui laissent leur pays pour venir au Sénégal. Pour moi, c'est un honneur. Parce qu'ils pouvaient dire que je n'ai rien à foutre là-bas, etc. Mais s'ils viennent ici, nous on dit que l'étranger, il est roi. Quand il vient, il est roi. Donc traitons-le comme un roi. C'est pourquoi ça aussi, jusqu'à présent, ça continue. Et nous voulons aussi que ça continue jusqu'à la fin des temps. Cela ne cesse jamais, parce que c'est ça qui fait le charme de notre pays. Nous aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment aller aux États-Unis, au Sénégal. On aime ça, si vous prenez les Sénégalais, vous leur faites un sondage, vous leur demandez dans quel pays vous voulez aller. Vous allez voir que la plupart, je ne sais pas encore, ce n'est pas scientifique, mais c'est ce que je crois. Ça veut dire que vous allez voir peut-être le plus grand pourcentage de dire que nous voulons aller aux États-Unis. Parce que c'est la première puissance au monde. Parce que aussi c'est une vitrine. Les États-Unis nous ont montré quelque chose de peut-être c'est comme un être humain, on ne peut pas être bon partout et toujours. Mais il y a de bons côtés des choses. Ça, ils nous ont apporté quelque chose à la civilisation humaine que personne d'autre n'a pu amener. Vous savez qu'un pays où il n'y avait rien au début, quand des gens sont venus, on en fait aujourd'hui une première puissance et une prouesse. Et aussi quand ces gens-là aussi ont des valeurs qui permettent au monde d'avancer. C'est-à-dire qu'ils croient au travail. Et on dit le travail, c'est le travail paye. On a fait toute une philosophie autour du travail. Pour dire si ces gens-là mettent en avant le travail, nous montrent que voilà, et on a vu les résultats que ça va amener, on doit se dire que c'est l'exemple à suivre. Il ne faut pas avoir honte de dire que voilà, c'est l'exemple à suivre. Ces gens-là, c'est des gens qui aiment travailler. Bien que peut-être des fois, peut-être il leur arrive de passer du bon temps, c'est comme ça. Mais quand il faut travailler, il faut travailler. Quand il faut jouer de la musique, il faut jouer de la musique. Mais chaque chose a son. Et eux, ils font ça très bien, ce qui fait que nous, à chaque fois que nous les regardons faire, aussi bien en matière de technologie, en matière de tout, mais même en matière de politique, des fois on se dit que voilà, nous voilà là où nous voulons arriver, même en matière de politique, arriver à un moment où le président qui sera aux États-Unis puisse être, quand il est en faute par rapport au règlement, à la constitution, à la loi fondamentale de notre pays, que ce président-là puisse être attiré devant les tribunaux pour maintenant rendre compte. Et de plus en plus, nos pays ont tout un ensemble d'organes pour dire que nous voulons ça et ça, parce que c'est l'exemple qu'on nous montre que, quelle que soit votre puissance, si vous êtes président même des États-Unis, vous travaillez pour les Américains. Bon, quand vous travaillez pour les Américains, moi, en quelque sorte, je me dis que le président, il est c'est comme une, on ne dit pas un homme de ménage, peut-être, mais une femme de ménage qui est là. Mais est-ce que cette personne-là, nous, il doit être là quand il doit même venir à Ndiassan, on doit mobiliser toute une communauté. Les élèves vont laisser leurs cours et tout ça pour être sur la route, pour applaudir et tout. On ne le fait pas aux États-Unis. Est-ce que le président des États-Unis peut prendre de l'argent comme ça, discuter avec moi et dire « voilà, je te donne ça ». Ça ne se fait pas. Il donne au nom du peuple américain. Nous recevons souvent des organes, des dons. Mais moi, je lis à chaque fois sur les sacs de riz, bien quelque chose comme ça, on dit « don du peuple américain ». Donc c'est le peuple américain qui donne ça au peuple sénégalais. Ça n'appartient pas au président du Sénégal. Ce n'est pas donné par le président des États-Unis. Mm-hmm. Et ça veut dire que lui n'a pas de garder de l'argent au palais, il vient à chaque fois d'appeler les gens de le donner par-ci, par-là. Mais nous, on le fait jusqu'à présent. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas changer en suivant ces exemples-là, se dire que voilà là où nous devons arriver si nous voulons que maintenant chacun travaille et que chacun croit au travail, mais pas à, peut-être corrompre quelqu'un à faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques pour gagner de l'argent. Mais c'est tout ça, pour tout ça, moi j'ai beaucoup d'estime pour les Américains, beaucoup d'estime pour les Américains, pour leur amour du travail et pour leur amour du travail bien fait et de la persévérance. Ça veut dire qu'ils commencent quelque chose, ils sont capables de faire ça sur 20 ans. Ils ne vont pas dire que je suis fatigué, je ne vais pas rester. Nous, ce que nous ne faisons pas. On dit souvent que l'homme noir ne peut pas sucer des bonbons. C'est un proverbe wolof qui dit ça. Il dit que nous, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de se L'homme noir ne peut pas sucer des bonbons. Il les croque par impatience. Ah. Parce qu'un blanc, il peut prendre ça, il suce ça jusqu'à la fin. Mais nous, on les croque parce qu'on ne peut pas attendre tout ce temps-là, des fois. Et souvent, on n'en a rien aussi. Dieu aime ceux qui endurent et ceux qui sont patients. Souvent, moi, vous le terminez par ça, pour dire, puisqu'on est dans un village religieux, bon, souvent, la religion a un peu. Il y a toujours un côté religieux. Dès qu'on dit, il y a ça, les gens pensent à la religion. Aussi, les gens se comportent comme tels. Bon, finalement, nous aussi, des fois, ça nous. Scotch on peut aussi à la religion qui fait que des fois on ne peut pas ne pas tout ce que nous faisons on ne peut pas ne pas tenir compte de Dieu ce qu'il a qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'on nous demande de faire par rapport à telle chose ou telle autre pour au moins ne pas faire du mal aux autres ouais. Quand je dis que c'est une communauté aussi que j'aime bien les gens ici sont nous ont bien accueillis moi je suis le doyen ça dit en matière de je suis celui qui a le plus duré ici tous ceux qui étaient là les moi sont affecté ailleurs. Moi, je suis celui qui a. Je suis jusqu'en 2000, depuis 2005, je suis là, 10 ans presque. Ce qui fait que, bon, je les connais. S'il y avait un problème, peut-être je vais aller ailleurs. Mais depuis là, je dis, moi, si je dois quitter Yassan, peut-être c'est pour aller chez moi à Thiès. Mm-hmm. Mais pour aller ailleurs, peut-être pour être autre chose, oui. Mm-hmm. Mais pour si je dois seulement être prof d'anglais, je préfère rester ici. Parce que les élèves travaillent bien, bon, par rapport aux autres élèves, ils sont plus ou moins disciplinés et tout ça, on arrive à faire nos cours plus ou moins convenablement. Et là, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres écoles, surtout en ville, maintenant de plus en plus, peut-être avec la mondialisation et tout ça, on a tendance à voir ce qui se fait ailleurs, vouloir faire la même chose quand un élève vient avec un couteau. Qu'est-ce qu'il fait avec un couteau hein? Donc souvent, il y en a qui le font. Des fois, de temps en temps, on dit que tel élève a poignardé son prof, son maître, il a fait comme ça. Donc, pour dire que ça, on ne l'avait jamais connu, nous, quand on était élève. C'était même pas impensable. Mais de plus en plus, on entend peut-être des choses comme ça. Et là, je pense que c'est avec la mondialisation et tout, le monde est devenu un village où tout ce qui se passe ailleurs, maintenant, on le connaît à l'instant même. Et maintenant, les gens ont tendance à vouloir maintenant uniformiser tout. Et tout ça, que tout le monde fait de la même façon. Et je pense qu'à part ça, c'est un village agréable. Les gens sont accueillants. Et moi je fais mes cours correctement et les gens ont du respect pour vous et vous aussi vous leur rendez ça et ça, ça favorise un peu l'entraide, ça favorise un peu aussi le vivre ensemble.
Merci beaucoup, merci pour l'interview et merci aussi pour votre travail ici et votre engagement. Merci
beaucoup.